18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
On est vendredi, ou ça caillouille, ça gèle, ça y est, le froid pénètre les foyers. Figurez-vous qu'il va falloir sortir, vous savez quoi? L'école roulée, clochette, ah! J'avais envie de le faire! Voilà, comme sa petite spéciale dédicace à Bruno Le Maire, notre ministre à Bercy. Bah oui, il a dit qu'il fallait sortir les cols roulés. Bah on les sort. Sauf que là, il fait froid. Bon, bah les amis, allez, c'est parti, vous le savez, au menu de ce programme, eh bien, plein de bonnes choses nous attendent. D'abord, nous irons direction le Qatar, avec Doha la Coupe du Monde, où Samira nous fera un petit état des lieux, le petit bilan avec les jeunes des quartiers, les Ulysses, Bondy, Sarcelles, avec l'association Sport à Vie. Mais également, nous serons avec Jean-Claude Beaujour, l'avocat qui viendra, le spécialiste des États-Unis, qui viendra nous parler, vous savez quoi, tout simplement, du bilan de l'enjeu avec la visite d'État aux États-Unis. Ensuite, avec Pierre-Henri, nous regarderons les associations qui ont aujourd'hui manifesté devant le Conseil d'État pour réclamer des solutions d'hébergement urgentes. C'est la saison, oui, on en parle. À 18h20, c'est vous au 01 53 48 3000, vous nous appelez. Et puis on va parler, vous savez quoi, de cette Coupe du Monde. Comment vous l'avez vécu? Vous avez envie de parler de cette victoire et qualification au huitième de finale des Marocains, et bien venez en parler. Vous voulez parler de l'équipe de France, vous venez en parler. Ça se passe au 01 53 48 3000, 18h30, Michel Taube viendra avec son billet d'humeur nous parler, et bien, de son quad neuf. Et puis, tout à l'heure, le face-à-face avec les influenceurs, les débatteurs qui confronteront leur point de vue avec les sujets qui ont retenu notre attention. C'est pas beau tout ça pour vous embarquer en week-end tout doucement. Allez, c'est parti, mais surtout, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Jingle!
Les Informés, la Minute Coupe du Monde, avec Sport à Vie.
Sport à Vie, c'est avec, vous le savez, on le vit depuis maintenant plusieurs jours, en direct sur l'antenne des Informés sur Beurre FM. C'est avec Samira Djouadi. Bonjour ma chère Samira.
Bonjour Adil.
Comment ça va? Vous avez fait bon voyage?
Super voyage, fatigué. Ouais.
Bon, je vois ça, j'entends la voix.
mais super voyage. Le retour très triste, forcément.
Ouais. Ça vous manque pas déjà, non?
Ah mais si, ça nous manque. Je pense que depuis hier qu'on est rentré, je pense qu'on a tous le cafard. Et puis, ça s'est aussi démontré par les pleurs à l'aéroport quand on s'est quitté.
Oh, ça pleurait! Oh là là, c'est triste tout le monde! Ça lâche des larmes et tous les enfants. Comment ils étaient justement les jeunes de l'association Sport à Vie, les jeunes des quartiers, nos jeunes reporters en herbe?
Eh ben super. Tristes tous de nous quitter parce que je pense que vivre 15 jours comme ça, intensif, H24, en groupe. Oui. Ben forcément, ça crée du lien, quoi. Ça
mais c'est
crée
vrai,
du lien. Il y a des relations qui ont été créées entre ouais. les enfants entre eux, mais aussi entre les enfants et les adultes, parce qu'il y avait vraiment, différents jeunes, différents adultes qui venaient d'horizons complètement différents. Et je pense qu'on a réussi à créer une espèce de famille entre nous qui a été assez extraordinaire. Mmh. Et donc forcément, je dirais la séparation hier à l'aéroport. Elle a été très, très, très difficile.
Moi, je veux les voir. Je veux vous voir ici en direct sur le plateau de Beurre FM dans Les Informés. Il faudra qu'on prenne date pour que vous veniez tout simplement établir le bilan de cette Coupe du Monde. Quel premier bilan vous tirez, justement les jeunes? Qu'est-ce qu'ils tirent comme bilan de cette expérience unique, inédite, exclusive pour eux quand on est jeune, quand on est en école élémentaire ou en collège? Qu'est-ce qu'on en tire comme bilan? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté?
Alors, le premier bilan à chaud et qui nous émeut, je pense que c'est ça qui m'a encore plus foutu le cafard, c'est les messages sur WhatsApp des parents et de tous ceux qui ont participé à ce voyage et qui ne cessent d'écrire sur un groupe qu'on avait créé entre nous et des parents qui font passer les messages par personne interposée et tous disent la même chose, tous disent avoir vécu un truc extraordinaire, quoi, vraiment extraordinaire.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les enfants, précisément? Quel est le mot qui revient régulièrement de cette riche expérience en pleine Coupe du Monde à Doha, au Qatar?
Ce qui revient, c'est extraordinaire. un voyage qui a marqué ma vie, qui a marqué notre groupe, qui a fait grandir nos jeunes, qui ont changé nos jeunes. Et ça, bah, c'est toute l'ADN de Sport à Vie depuis 22 ans. Donc, ce qui montre qu'on s'est pas trompé quand on utilise le sport pour faire changer ses gamins. Et quand un gamin hier me dit, Samira, t'inquiète pas, maintenant, je sais à quoi sert l'école. Et t'inquiète pas, je continuerai à aller à l'école, je me lèverai tous les matins. Et ben, si j'en ai sauvé un hier, et ben, franchement, maintenant, je peux dormir tranquille. Quoi.
Magnifique. C'est vrai, c'est de belles phrases à entendre ça. Dites-moi, Samira Djouadi, justement, Sport à Vie, vous l'avez rappelé, ça fait maintenant plusieurs années que vous permettez à des jeunes de vivre la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, vous, personnellement, avec Sport à Vie, comment vous l'avez vécu avec, avec ces jeunes? Comment vous l'avez vécu depuis plusieurs jours à Doha? Doha, je le rappelle, c'est une première, hein, première dans un pays arabe, justement.
Exactement. Eh ben, alors d'abord, forcément, quand on est parti, les gamins, ils sont connectés plus que nous, hein. Donc, ils ont entendu parler de tout ce qui était Qatar bashing, de toutes les critiques qui ont été faites contre le Qatar. Et nous, on a volontairement pas voulu échanger avec eux sur ce sujet-là parce qu'on voulait le faire après. Après, c'est-à-dire une fois que eux auraient vu les choses. Et là, oui, après, on peut en discuter. On peut après revenir sur certains sujets, etc.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, certains nous ont interpellés en disant « Mais moi, je ne comprends pas ce qui a été dit sur ce pays. » Alors que nous, on vit cette Coupe du Monde. Elle est extrêmement bien organisée. Jamais on a eu des bouchons. Jamais il y a eu des bousculades. Alors qu'on a eu peur que ce pays, le Qatar, ne sache pas organiser. Moi, on me l'a dit. On m'a dit « Samira, mais ils vont pas savoir organiser, quoi.
Oui. »
Comme si on avait affaire à des Bédouins qui se sont réveillés un jour et qui ont voulu organiser une Coupe du Monde. Alors que là, ils nous ont donné une leçon, mais une vraie leçon d'organisation, mais sur tous les plans, que ce soit dans le métro, alors qu'ils ont pas autant de lignes que nous de métro, hein.
Oui,
que ce soit aux alentours des stades.
Oui.
Les queues, il y avait jamais de queues, il y avait jamais de queues, c'était toujours fluide.
Oui.
Les cartes, ils ont mobilisé. Et tout ce qui va avec. Et là, pour moi, je pense que c'est la plus belle des coupes du monde sur le plan organisationnel, sur le fait d'accueillir toutes ces délégations qui viennent du monde entier pour qu'elles puissent justement être le mieux et le bien possible durant cette fête, quoi.
Alors,
donc, moi, je dirais une grosse leçon de vie, quoi. Mais il faut y être pour le voir, hein.
Il faut y être pour le voir. Donc, réussite totale pour le Qatar, hein, pour Doha.
Ah, mais c'est 100%, 100% de réussite. On est à la moitié, à la moitié de la Coupe du Monde. D'abord, c'est passé à une rapidité. Et puis, surtout que oui, effectivement, tout est fait pour que cette fête soit la plus belle fête pour tout le monde, quoi. Hein. Tout le monde s'est adapté, tout le monde a fait en sorte que tout le monde s'y retrouve, quoi.
J'imagine, Samira Djouadi et Sport à Vie, vous avez tourné, vous avez réalisé des séries de reportages, de films pour garder. Qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça, ces photos et ces tournages?
Alors, on a emmené avec nous un spécialiste de la vidéo qui s'appelle Hugo, qui est un Italien qui vient à chacun de nos projets filmer, parce qu'effectivement, il faut garder une trace. Et donc, il va nous maintenant, avec toutes ces images, je ne sais pas comment il va faire, parce qu'il y a des heures et des heures et des heures et des heures d'images. Et donc, on va créer un documentaire de 52 minutes et qu'on diffusera à tous les parents, bien entendu, à tous nos partenaires qui nous ont fait confiance ici en France. Mais aussi, j'ai fait le pari que nous ferons la même chose à Doha. Nous retournerons en février-mars à Doha pour leur présenter tout notre travail et surtout ce documentaire pour dire combien tout le monde.
Vous allez faire une projection privée ici sur Paris pour justement.
Oui, tout à fait.
Bon, j'espère que vous nous inviterez, Samira Djouadi.
Ah,
hein.
Bah, avec grand plaisir.
Surtout qu'on a vécu évidemment avec les jeunes reporters en herbe ici en direct la Coupe du Monde.
Oui, et puis nous, on les a filmés quand ils étaient en direct.
Génial, bravo.
On a des images des gamins qui te parlent au téléphone et donc on a tout filmé, on a essayé de tout filmer tous les instants pour vraiment garder toutes ces traces et montrer combien le projet il a été pédagogique, instructif, pour ces gamins.
Eh bien, je vous dis à très vite sur le plateau ici pour venir en parler avec les jeunes de Sport à Vie, ma chère Samira Djouadi.
Eh bien, avec plaisir. On organise ça.
Et bravo, bravo, bravo pour tout ce que vous avez fait, vous et les jeunes de Sport à Vie. Bravo.
Merci Adil et merci de nous avoir donné ce moment d'antenne tous les jours pour parler de notre expérience.
Eh bien, c'est normal. C'est aussi ça, les informer sur Beurre FM. À très vite. On vous embrasse.
À bientôt. À bientôt.
Vibrez au rythme de la Coupe du Monde sur Beurre FM avec le soutien du ministère chargé de la ville.
Et direction les États-Unis, justement pour parler avec un spécialiste, c'est parti l'interview.
Les informés. Les informés. L'interview.
Et l'interview, c'est avec Maître Jean-Claude Beaujour. Bonjour. Allô, allô. Allô, mon cher Maître Beaujour. Mon cher Maître Jean-Claude Beaujour. Est-ce que vous êtes avec nous? On vous entend pas du tout, mon cher Maître. Vous êtes aux États-Unis. Et la liaison, elle me semble un peu compliquée, effectivement. Ben écoutez, on va essayer de le rappeler, on va essayer de le rappeler pour voir, on va résoudre ça. C'est aussi le charme du live. Nous allons joindre Pierre-Henri. Pierre-Henri qui est avec nous, notamment pour parler, vous savez quoi, eh bien, de ces associations. Ils ont été plusieurs, justement, à manifester devant le Conseil d'État pour réclamer, vous savez quoi, tout simplement, eh bien... une solution rapide pour ceux qui ne sont pas logés, pour ceux qui ne sont pas hébergés. Vous savez qu'on est en pleine période hivernale et que cette période hivernale, elle suscite, vous savez, des règles, il y a des lois aussi. Eh bien, on va en parler avec Pierre-Henri, qui est le président de France, j'allais dire France Fraternité, non du tout, qui est le président, oh là, ça m'échappe, hein, je connais que ça. Pierre-Henri, bonjour.
Bonjour.
Vous savez que j'étais en train de dire, je vais très bien, je vous remercie infiniment. J'étais en train de dire que vous étiez le président de France Fraternité, mais c'est vrai.
Oui.
C'est le cas. C'est le cas. Je pensais être induit en erreur, mais pas du tout. C'est le cas.
Non, mais c'est le cas. Oui.
Absolument.
Je vous le confirme.
Monsieur le président, je m'adresse justement au président, monsieur le président Pierre-Henri. Vous savez qu'il y a plusieurs associations qui ont installé des tentes devant le Conseil d'État. Elles ont exigé. Et elles ont demandé des solutions urgentes, d'accord, pour des hébergements pour les migrants. Comment ça vous fait réagir? Elles ont eu raison de faire cela?
Alors, il faut expliquer à vos auditeurs ce qui se passe. En réalité, il y a un certain nombre d'associations, notamment Utopia 56, qui, depuis plusieurs mois, hébergent de jeunes adolescents. La question est la suivante, enfin héberge, c'est-à-dire dans un camp de toile, dans la rue. Et depuis des mois, ils demandent un hébergement. La question est la suivante, et elle n'est pas nouvelle, c'est de savoir si ces jeunes adolescents ont moins de 18 ans ou ont plus de 18 ans, en réalité. Et je dirais pour ma part que peu importe, nul ne doit rester à la rue et l'hébergement est un droit inconditionnel. En réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez un conflit entre la ville et l'État qui dure depuis près de 15 ans, parce que si c'est des mineurs, c'est le département qui les prend en charge et qui doit payer leur prise en charge, c'est l'aide sociale à l'enfance, et s'ils sont majeurs, c'est la responsabilité de l'État. Et en fait, depuis 15 ans, 20 ans, l'État et la ville, quels que soient les pouvoirs en place, renvoient la balle. Voilà, donc oui, il est urgent, compte tenu des températures, de faire en sorte que les personnes soient mises à l'abri, évidemment. Et puis ensuite, il faut évaluer la situation de ces jeunes gens, savoir si oui ou non ils sont mineurs ou majeurs, avoir une orientation adaptée, mais ce bras de fer est insupportable en vérité, qui laisse les gens à la rue. Après, le Conseil d'État a une jurisprudence qui est assez constante sur l'hébergement d'urgence qui doit être garanti, à condition, bien entendu, que les migrants eux-mêmes ne refusent pas cet hébergement d'urgence.
Vous savez quoi ? On va marquer juste une pause pub et on se retrouve dans une poignée de minutes, Pierre-Henri, Monsieur le Président. Justement, pour en parler, je voudrais qu'on parle de ces solutions. Est-ce que, quelles sont les solutions qu'on peut esquisser ? On marque une pause et on se retrouve tout de suite après, mon
D'accord,
cher.
D'accord, à tout de suite.
À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
18h22, précisément dans Les Informés, vous le savez, c'est ici que ça se passe au 01 53 48 3000, venez vivre la Coupe du Monde avec nous. Si vous avez envie de lâcher évidemment vos émotions, c'est ici que ça se passe au 01 53 48 3000, pour parler du Maroc, pour parler du Sénégal, pour parler du Cameroun, pour parler de la France, pour parler d'un autre pays, sans aucun problème, vous êtes les bienvenus. C'est ici au 01 53 48 3000. Pierre-Henri, le président de France Fraternité, on était en train de parler justement de ces associations, ces plusieurs dizaines d'associations qui se sont mobilisées, qui ont installé leur tente devant le Conseil d'État pour réclamer des solutions d'hébergement. Quelles sont ces solutions d'hébergement réclamées justement ? Et est-ce que c'est possible ?
Alors, oui, enfin, c'est pas nouveau d'ailleurs comme action, comme type d'action. Il y a déjà eu dans le passé ce même problème et qui se renouvelle grosso modo à chaque hiver, même si pendant l'été, le fait de rester à la rue n'est pas non plus un long fleuve tranquille. La question est la suivante. Dès lors que vous êtes mineur, vous devez bénéficier d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et vous n'êtes pas expulsable du territoire. C'est la loi française. Et du coup, il y a toute une problématique autour de la détermination de l'âge. En fait, en France, on n'a pas réussi à progresser dans ce référencement de l'âge, dans ce calcul de l'âge. On fait toujours appel à un référentiel, les médecins font appel à un référentiel qui date de 1930, qui consiste à mesurer l'évolution des cartilages, notamment du poignet, et qui présente un certain nombre de mois d'incertitude. Et vous comprenez bien que, oui, en fait, suivant que vous soyez majeur ou mineur, bah, ça change tout. Donc, la question est vraiment la suivante. Que vous ayez 18 ans, plus de 18 ans ou moins de 18 ans, de toute façon, personne ne doit être condamné à vivre dans la rue dans ce pays. Après, la question est la suivante. Quel est votre statut en fonction de votre âge. Et là, il faut aussi que les associations lâchent un peu leur posture, parce que tout le monde sait que parmi les mineurs, il y a vraiment des mineurs, puis il y a aussi des jeunes gens qui ont plus de 18 ans parce que et qui sont passés pour mineurs, parce que tout simplement, ils savent que si ils sont considérés comme ayant moins de 18 ans, ben ils sont pas expulsables. Et peut-on leur en vouloir? Si nous étions dans la même situation, vous ayez 19 ans, 20 ans, de toute façon, vous êtes en précarité, vous êtes à la rue. Si vous avez la possibilité de vous faire passer pour mineur, ben vous le faites. Et donc, je pense que l'État, comme le département, ont tous une responsabilité pour trouver la solution la plus adéquate, et c'est vrai aussi des associations. Je pense que le sujet est terriblement instrumentalisé. En tout cas, ce spectacle d'un certain nombre de jeunes gens et de moins jeunes à la rue est absolument insupportable et il ne faut pas s'y habituer.
Oui. Vous avez raison, on se retrouve très vite, mon cher président Pierre-Henri, justement sur le plateau de Beurre FM.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir partagé. On peut rappeler quand même, évidemment, le rendez-vous du week-end à ne pas manquer, mon cher Pierre-Henri.
Tous les matins, sur un pays en débat, le samedi et le dimanche à 8h20, où je reçois un invité autour d'un pays que l'on questionne. Sur la problématique des droits de l'homme. Alors, la Libye, la Tunisie, le Qatar, ben voilà, retrouvez-nous sur l'antenne de Beurre FM. C'est une émission très intéressante avec nos invités.
à ne pas manquer, c'est votre rendez-vous sur Beurre FM à 8h20, samedi, demain donc, et dimanche. Pierre-Henri, merci infiniment, le président
merci,
de France Fatalité, merci à vous.
Adil.
18h26, à très vite bien sûr, et à demain sur l'antenne, donc à 8h20. Voilà. 18h26, merci. Tiens, ouvrir l'antenne. Je vous sollicite, chers amis auditeurs, on a encore 4 minutes avant de retrouver le Quoi de Neuf. Allez, saisissez votre téléphone, 01 53 48 3000, pour parler de foot, pour parler de la victoire des Marocains en huitième de finale, mais également aussi de l'équipe de France, mais aussi également, si vous êtes originaire de l'Afrique subsaharienne, venez en parler, 01 53 48 3000, ou un autre pays tout court, 01 53 48 3000, laissez éclater vos émotions, vous avez 4 minutes, justement, pour venir en parler, je vous attends, allez, faites sauter le standard, les amis, 01 53 48 3000 pour parler de cette Coupe du Monde et des différentes victoires des pays évidemment que vous soutenez. 01 53 48 3000. Qu'est-ce qui vous fait rire, Rafik Temgari?
Est-ce que vous soutenez une équipe, Adil?
Je vous vois tout joyeux, il est tout sourire, il est là.
Je suis très content pour l'équipe du Maroc qui a fait un excellent match. Ouais. Et je pense que sincèrement, ça a donné vraiment du plaisir à énormément de personnes.
Surtout contre la Belgique. Hein,
ouais. C'est ce que je dis.
Vous rassurez, hein, les Marocains.
C'est pas une histoire
belge.
C'est
David Lebesquit qui le dit, attention. Hein.
C'est pas une histoire belge, comme je dis. Les Marocains,
c'est pas mal ça, c'est pas mal, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a, maître David?
Pour les Belges, c'est une histoire belge, hein, putain.
Ah, c'est vache.
Mais on salue nos amis belges.
0153 48 3000, vous vivez cette Coupe du Monde, vous la regardez?
Moi, le soir, je regarde les matchs le soir.
Le MAG avec Denis Brognard.
Les matchs. Le MAG, bon, je suis pas un spécialiste, mais voilà, je prends plaisir à regarder les matchs de foot le soir à 20h, quand je suis à la maison.
Oui.
Et puis le week-end, parce que je suis un fanat de foot, quoi.
Fanat de foot, et vous?
Est-ce que tu as regardé le match de l'Algérie?
Non,
bah dommage pour toi.
Il y a pas ils sont pas qualifiés, l'Algérie.
C'était
vraiment très bien.
Je suis, mais bon, désolé pour l'Algérie, mais bon. Il y a le Maroc, il y a quand même la Tunisie.
Et la Tunisie, et puis tous les autres, il y a le Cameroun, il y a le Ghana.
De toute façon, elle n'est pas qualifiée, malheureusement.
Là, ça y est, elle a fait quand même un beau parcours.
Et voilà, il y a des beaux parcours. Et c'est bien parce que c'est pas toujours les mêmes équipes. L'Allemagne a été éliminée. Enfin, de grandes équipes ont été éliminées. Hein.
Mmh. Exact. Oui, l'Allemagne, c'est étonnant, l'Allemagne.
Ça fait deuxième fois consécutive.
Moi, je me dis que dans le futur, 0153 48
3000, venez en parler.
Oui. Les matchs, ça va être très très bien dans le futur, parce que plus on s'en rapproche de la finale, le niveau est encore élevé. Je pense que l'équipe de France, ça va être assez compliqué.
Faut qu'ils montent en puissance.
Je pense que là, pour l'instant, il y a... Allez, la Pologne, on va pas être l'oiseau de mauvaise augure. On va essayer de souhaiter bonne chance à l'ensemble
Pologne,
des...
France-Pologne, c'est largement...
Mais aujourd'hui, on a vraiment de très beaux matchs. Il y a une très belle qualité. Mmh. Et on va écouter vos auditeurs, cher Adil.
Exactement. Et vous avez bien raison. 01 53 48 3000. Mais pour l'heure, vous savez quoi? C'est le Quoi de Neuf. Il est 18h30. C'est parti. Le jingle, le Quoi de Neuf, chers amis.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, c'est avec Michel Taube. Michel Taube est avec nous, il est là, il est tout de suite, il veut parler aussi de foot. Michel Taube, bonjour mon cher Michel Taube.
Bonjour mon cher Ali, comment allez-vous et comment vont les auditeurs de Beurre FM?
Très bien, tout le monde se porte bien. Et vous êtes le patron fondateur de l'Opinion Internationale, le média en ligne. Justement, on était en train de parler de la Coupe du Monde à Doha, au Qatar. La France en quart, donc justement contre le Sénégal, en demi contre le Maroc ou le Cameroun. Bref, ça c'est ce que vous voyez, c'est votre billet d'humeur, les binationaux de la France qui gagnent. Allons-y, on vous écoute.
Oui, c'est un petit peu un billet un peu léger, mais qui en fait... correspond à une réalité et géopolitique et nationale. C'est que comme la France va jouer contre la Pologne en huitième de finale et que dans la même poule, il y a Angleterre-Sénégal dimanche, moi j'espère de tout cœur qu'on va avoir un quart de finale France-Sénégal. Ouais. Et si le Maroc, de son côté, je sais que vous êtes très, très attaché au Maroc, mon cher Adil, si le Maroc bat l'Espagne... Et pourquoi pas le Cameroun qui se qualifie d'ici ce soir? Eh ben, on pourrait imaginer une demi-finale France-Maroc ou France-Cameroun et une finale avec l'un de ces pays-là. Alors, on ne pourra pas avoir une finale entre la France et l'un de ces pays-là, malheureusement. Mais il y a tellement de pays francophones qui sont dans en huitième de finale que franchement, la probabilité que un pays francophone ou qu'un pays dont une bonne partie, voire la moitié des joueurs sont binationaux avec la France, arrive en finale est quand même très importante. Et donc, vous voyez, à une époque, on critique beaucoup de choses, on est tous déclinistes et défaitistes. Bah, vous voyez, la francophonie et la France, finalement, rayonnent d'une certaine manière. Et donc, moi, je pense que pour cet événement planétaire, hein, qui est l'événement le plus populaire au monde de tout ce qui peut être organisé sur notre belle Terre, eh ben, je trouve que c'est finalement pas mal et ça devrait nous rendre fiers d'être français et francophone.
Exactement, voilà. Vous avez raison. On peut rappeler aussi hein, quelques pays qui ont eu un très beau parcours, dont la Tunisie, effectivement, qui ont fait un excellent jeu durant cette Coupe du Monde.
Tout à fait, et qui, là aussi, avaient beaucoup de binationaux franco-tunisiens. Malheureusement, ils ont été éliminés, mais encore une fois, le Maroc, le Sénégal, peut-être, j'espère, le Cameroun, sauveront l'honneur de l'Afrique et de la francophonie.
Eh bien, écoutez, à suivre ici même. Merci pour ce billet d'humeur. Je vous souhaite un excellent week-end, mon cher Michel Taube.
Merci, mon cher Adil, et
à vendredi prochain. À la semaine prochaine avec un autre édito, un autre billet. Il a raison, effectivement, les binationaux et leur rôle, cette complémentarité, cette richesse notamment. On a le temps de prendre un auditeur, on a des auditeurs, 01-53-48-3000. Oui, bah, allons-y. On va les prendre avant de retrouver tout à l'heure la petite pause qui va nous...
L'équipe de l'Arabie Saoudite a bien joué avec son entraîneur.
Oui, français. C'est vrai aussi.
Ils ont battu l'Argentine. Donc
d'ailleurs, qui a fait un buzz, pas possible, parce qu'il était dans les coulisses, là, il était dans les vestiaires, justement le coach des joueurs, des footballeurs saoudiens. Vous avez suivi ou pas ce buzz?
Oui.
Il a dit, vous voulez la dédicace de Messi ou quoi? Allez-y pendant que vous y êtes. Ça m'a fait rire, ça, c'était pas mal.
Je ne savais pas. Bah, ils ont eu une journée, un jour férié, day off, comme on dit là-bas. Et le lendemain, qu'ils ont gagné un match, bah, tout était férié.
Écoute.
C'était très sympa.
Tiens, on va accueillir Ouria de Drancy. Bonjour Ouria.
Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Beurre FM.
Bonjour. Bienvenue. Welcome.
Merci.
On vous écoute.
Alors moi, c'est mes enfants qui suivent, mes garçons qui suivent le Qatar.
Oui.
La Coupe du Monde. Moi, je suis entre deux buts, entre la cuisine et la télé. Et en espérant, ouais, comme dit le monsieur, en espérant que peut-être France-Maroc ou France-Sénégal ou un pays de l'Afrique pour la Coupe du Monde.
Pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Ouais, de temps en temps, des houlas. Ouais, vous en faites, vous, des houlas, non? Quand il y a des jeux...
Les enfants, elle parlait des enfants.
Les enfants, ouais.
Ah, moi, mes enfants, ils sont fans. En plus, je parle le 10 décembre en Algérie. Ils m'ont dit, non, on n'oublie pas, le 18, il y a la finale.
Ouais, ouais, c'est vrai, là, il a raison.
Ils suivent en direct, pas en direct de la France, ni au Qatar, ni direct de l'Algérie.
Direct.
Mais ça crée une belle ambiance,
ouais.
Ah, mais c'est surtout qu'ils vont être avec leurs cousins. Et moi, je vais être tranquille parce qu'ils vont aller dans le café avec ses cousins, ils vont regarder le vrai match. Avec le supporter, et ça va crier, et ça va faire du bien aux oreilles de la maman.
Ouais, vous avez bien raison. Et vous allez faire quoi en attendant?
Ah, moi, je vais vous reposer. Ah, je vais faire détente.
Détente.
Vous avez besoin de profiter. Ce
ouais,
de
c'est ça,
on a
exactement.
Besoin. Oui, honnêtement, on en a besoin. Ça fait 4 ans qu'on n'est pas parti en Algérie.
Exactement.
Et là, on en a trop besoin de l'odeur de l'Algérie, l'odeur des cousins, l'odeur de la famille, et surtout, voir les parents.
Vous avez bien raison. Eh bien, écoutez, que vos enfants continuent à vivre cette Coupe du Monde, c'est bien, c'est joyeux. C'est
bien. Ils sont fiers. Ils sont fiers. Hein. Tant qu'ils disent que l'Afrique gagne, ils sont fiers.
Oui, vous avez bien raison, c'est vrai. Merci, ma chère Ouria.
Merci, bonne soirée, bon week-end. Et à la prochaine.
À la prochaine, à très vite. 18h35, je vous l'avais dit, il y a plusieurs manifestations, plusieurs rassemblements qui sont prévus, vous savez quoi, ce week-end. Et je voudrais qu'on en parle avec le père du jeune Yanis, vous savez, 8 ans, qui a été mortellement fauché par une voiture. Vous vous souvenez, on l'avait reçu, le père de famille, Hakim, justement, qui était ici même. Ben, il est en direct avec nous. Bonsoir, Hakim.
Bonsoir, Adil. Bonsoir à tout le plateau.
Merci d'être avec nous. Merci Hakim, vous êtes le papa du jeune Yanis, hein, justement, je le disais, fauché par un véhicule. Vous êtes toujours dans cette affaire qui vous occupe quotidiennement. Je sais que vous étiez aussi en Algérie, vous avez répondu à la presse là-bas. Aujourd'hui, où en êtes-vous précisément, mon cher Hakim?
Eh bien, bonsoir, tout d'abord. Au moment où je vous parle, eh bien, je pense qu'on est de plus en plus impliqués dans le combat. Et heureusement, avec de plus en plus de personnes qui adhèrent, puisque on parle d'une injustice, je ne sais pas si on peut la mesurer. Pour moi, je n'arrive pas à en voir le bout. Donc, j'espère que demain, eh bien, ce sera une réponse forte, justement, en vue de la justice par rapport à tout ce qui nous arrive. Oui, j'étais il n'y a pas si longtemps, donc il y a quelques jours, j'étais à l'international, oui, sur plusieurs chaînes télévisées algériennes. Eh bien, là aussi, on se demande le pays de droit de l'homme, qui a la justice, qui l'a pas. Voilà les questions qui se posent à l'extérieur, que je me pose encore aujourd'hui aussi. Donc voilà, où j'en suis aujourd'hui, eh bien, je pense que... Enfin, j'espère qu'on va commencer à voir le bout du tunnel. Il y a quand même plusieurs villes aujourd'hui qui participent, qui seront demain dans des rassemblements.
Que va-t-il, mon cher Hakim, que va-t-il se passer demain? Justement, je sais qu'il y a plusieurs rassemblements qui sont prévus un peu partout. C'est à 14h30, hein, vous pouvez nous en parler, vous pouvez nous en dire un peu plus?
Complètement. Demain, à 14h30, place de la République à Paris, un rassemblement. Et là, j'invite un maximum de personnes à venir, parce que ceux qui sont au courant de cette injustice, eh bien, savent de quoi il s'agit. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un petit garçon de 8 ans qui a été sauvagement, parce que le mot est faible, tué par une chauffarde, Marie-Christine, qui a été protégée par ses enfants, qui sont, eux, gendarmes, et qui en fait... On fait en sorte, avec la complicité de la gendarmerie, et voilà, je ne dirai pas plus, donc ils ont fait en sorte qu'elle ne soit pas jugée à la hauteur de son crime. En réalité, elle n'est pas du tout jugée. Elle a été relâchée une heure après de la gendarmerie, alors qu'elle était en excès de vitesse, qu'elle a tamponné Yanis sur le passage piéton. Elle l'a écrasée pour s'enfuir. Elle n'a pas porté assistance. Elle s'est enfuie. Avec tout ça, elle n'a fait qu'une heure de gendarmerie, elle a été relâchée. Et depuis, on bataille pour essayer d'avoir la justice. Elle lui a enlevé la vie, mais il est hors des questions qu'il n'est pas justice.
Donc pour, ça, évidemment, pense... donc pour faire du bruit, voilà, et pour rendre hommage à votre fils, Yanis, vous l'avez rappelé sauvagement, tué, 8 ans. Demain, rendez-vous à 14h30 à Place de la République, à Paris.
À 14h30, place de la République à Paris. À Marseille, il y a une marche aussi, au départ du Vieux-Port, à 14h30 aussi. À Toulouse, devant le tribunal, donc le palais de justice, il y a aussi un rassemblement. À Montpellier, place de la Comédie, il y a aussi un rassemblement. Et pour finir, mais j'espère qu'il y aura aussi énormément de personnes, à... Donc à Rennes, à la Galle du Colombier, il y a aussi un rassemblement. Voilà pour les villes qui se sont mobilisées.
Eh bien, toutes les villes que vous venez de citer, ça tombe bien. C'est des villes où on est évidemment présent, où la radio est présente. Merci infiniment, mon cher Hakim.
Un grand merci à vous. J'espère avoir un maximum de monde.
Eh bien, écoutez, chers amis auditeurs, vous nous écoutez dans toutes ces villes. Allez répondre de votre présence demain. Hakim, le père de famille, vous attend pour cette forte mobilisation. Merci, mon cher Hakim, et bon courage
merci,
pour demain.
Merci à vous. Merci
à vous. 18h40, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après avec le face-à-face.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Et le face-à-face, vous le savez, c'est avec Maître David Libeskind. Bonjour.
Bonsoir.
Comment ça va? Avec le micro ouvert, c'est mieux. Ouais. Tout va bien?
Tout va bien. Il fait froid, hein, mais ouais. Voilà ce que j'allais dire.
Faites comme mais Barbier maintenant. Vous n'avez votre écharpe autour du cou.
Ouais, j'ai mis mon écharpe.
Ouais.
Mais à Beurre FM, il fait très bien.
Il fait beau,
pas
là.
Encore couper l'électricité.
Même trop, là. Hein.
Enfin, on va en parler, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir diffuser.
Non, je crois qu'on va plus. À mon avis, ils vont nous couper l'électricité, c'est sûr. C'est sûr et certain. Rafik Temgari, bonjour.
Bonsoir, Adil.
L'un est avocat, l'autre est élu. Il est élu, justement, à Rueil-Malmaison, sur le département du 92. On va parler, vous savez quoi, de cette polémique. Les profs qui commencent à dire, à faire part de leur colère, parce que justement, vous savez la déclaration du ministre de l'Éducation nationale, hein, eh bien, il a lâché un truc. Il a dit, il y aura des coupures. Hein. On parle de syndicats d'enseignants, de parents d'élèves qui sont montés au créneau et qui ont alerté M. Papendaye, justement, sur la fermeture des écoles en cas de coupure d'électricité. On parle de délestage, n'est-ce pas, Rafik Temgari?
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quelques semaines auparavant, on avait évoqué le mot délestage et on a expliqué qu'il y a déjà des... Je revenais d'Italie à l'époque et je disais qu'en Italie, il faisait quelques heures de délestage et que ça risquait de venir en France. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui... il nous reste à prier qu'il fera pas très très froid. Donc s'il va faire très très froid, je pense que l'utilisation de l'énergie est obligatoire, de passer à la vitesse extrême. Et certes, il y aura des risques de coupure. Alors, pourquoi maintenant les enseignants ont peur, les syndicats, la FCPE, la PEP, tout cela, ils sont inquiets et je les comprends parfaitement. Parce que quand même, on a un passif. Ce gouvernement-là a très mal géré l'épisode Covid. Donc on a eu quand même beaucoup d'intox, on n'a pas eu une information fluide, on a besoin de masques, on n'a pas besoin de masques, on a besoin de vaccins, pas de vaccins, etc. Donc je pense qu'on part dans la même logique, c'est qu'aujourd'hui, on nous lâche une information et on n'est pas sûr à 100%. Donc est-ce que certainement nos enfants, et je me mets en tant que parent, on voudrait bien que nos enfants puissent quand même avoir classe, finir leur programme, et ça nous fait du bien aussi quand ils sont à l'école, ça je ferme la parenthèse, mais sincèrement, aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est qu'on n'a pas une visibilité sur ce manque d'énergie. Si on va avoir un hiver très très froid, je pense que les réacteurs ils sont à l'arrêt, et des dizaines, plus la guerre en Ukraine, si la guerre en Ukraine va se prolonger, tout cela, pour moi, va aboutir à des coupures de courant. Et si c'est même quelques heures par jour, ce qu'on appelle du délestage, je pense qu'il va avoir vraiment des répercussions sur nos enfants.
La vraie répercussion, pour le coup. Alors, maître David Lebesquite, qu'est-ce que vous dites?
Alors, la faute à qui? Alors,
pas déjà, d'école le matin.
La faute à qui? La faute un peu au gouvernement. Puisque,
pas que ce gouvernement.
Il faut bien ouvrir le micro, parce qu'il y a un problème de son, là.
Oui. Vous m'entendez ou pas?
Là, c'est mieux.
En fait, il y a 20 centrales qui sont à l'arrêt, sur 56 centrales. Je rappelle, les centrales produisent de l'électricité. Hein. Voilà.
Oui, bien sûr. Mais...
Alors, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est un projet qui est très sérieux, hein, et je pense que ça va arriver. Donc, et pour janvier, ça fait partie du plan du gouvernement. Alors, toutes les zones géographiques ne seront pas concernées. Ça, faut le dire aussi aux auditeurs. Et les coupures n'auront pas lieu toute la journée. Ce qui est prévu, c'est qu'il y ait une coupure le matin. C'est-à-dire que les enfants n'iront pas à l'école. Alors, ça pose plusieurs problèmes.
10-12 heures.
Voilà, 10-12 heures. Déjà, premier problème, la cantine. Hein, est-ce que les cantines vont ouvrir, sachant que les enfants reprendront à l'école à 14 heures. Et puis, deuxième problème, mais qui va s'occuper des enfants le matin? Parce que les parents, ils bossent. Comment ça va se passer? Ils vont prendre une nounou, s'ils en trouvent une, juste pour le matin. Donc, ça pose... un tas de difficultés, parce que le gouvernement considère qu'en fait en matière de coupure d'électricité, j'ose dire, l'école n'est pas prioritaire. Les institutions qui sont prioritaires, c'est la gendarmerie, la police, ce qu'on peut comprendre, et les hôpitaux. Mais je pense que ça aura lieu, mais la faute à qui? Moi, je suis désolé, c'est la faute du gouvernement, parce que nos centrales nucléaires ne produisent plus d'électricité. Et malheureusement, le prix de l'électricité, évidemment, a augmenté du fait de l'augmentation du prix de l'énergie.
Je ne dirais pas que c'est que le gouvernement actuel, David. Parce que sincèrement, les précédents gouvernements ont fait en sorte...
Emmanuel Macron, il est au pouvoir depuis 2017.
Oui, non, mais voilà. en tant que président, mais en tant que ministre, il l'était auparavant. Donc je me dis...
Oui, c'est... donc encore plus longtemps.
Tout à fait. Mais c'est pour ça, il faut dire la vérité. C'est que c'était une histoire qui date, dans le sens où plusieurs gouvernements successifs ont décidé l'arrêt du nucléaire.
Je ne suis pas très d'accord. Parce que
alors laissez-le finir et ensuite vous allez dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord.
Et qu'ils ont fait en sorte de partir sur l'arrêt de ces centrales nucléaires-là. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a fait une erreur. que l'énergie nucléaire est bonne et on fait en sorte de restaurer ces réacteurs. Donc je me dis, on revient sur l'énergie nucléaire, et sachant qu'aujourd'hui en France, on est dépendant.
Ça fait pas un peu brouillon tout ça là, ces organisations là? On n'aurait pas dû réfléchir suffisamment tôt, non?
Exactement, moi je trouve ça inquiétant. Enfin, j'ai l'impression, excusez-moi du peu, mais qu'on est un pays sous-développé, qu'on n'est pas capable en fait de pouvoir avoir l'électricité en fait tous les jours. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ce qui arrive dans les pays qui sont pas très industrialisés, très développés. Faut dire ce qui est. Alors, ce que tu dis, je suis pas complètement d'accord, puisque le gouvernement a annoncé à fin décembre ou à janvier qu'il serait en mesure en fait d'avoir un parc de 42 centrales nucléaires actives sur 56. Donc, en fin de compte, ça veut dire qu'il y a une solution rapide qui existe, puisqu'ils le font. Donc je pense effectivement, c'est pas eux, c'est pas ce gouvernement, c'est pas Emmanuel Macron qui a commencé à arrêter les centrales puisqu'elles n'étaient pas entretenues.
Exactement.
Voilà.
Ce que je dis, c'est déjà Chirac à l'époque.
Voilà, mais en tout cas, je pense que ça fait très brouillon, ça fait bizarre. Excuse-moi, ça fait bizarre quand on te dit que au mois de janvier, peut-être il y aura des coupures d'électricité, parce que c'est pas simplement dans la tranche matinale, c'est aussi dans la tranche 18h-20h.
Aussi, ouais.
Enfin, je trouve ça quand même étonnant pour la septième puissance mondiale.
D'une aberration.
Mais oui, c'est aberrant. Mmh.
C'est pas faux. Alors, moi, je reprends ma casquette d'élu et je parle un petit peu sur les écoles, comment l'éducation est gérée par les villes. Parce que, pour information, les écoles primaires, c'est géré par la mairie. Les collèges, c'est géré par le département. Et les lycées sont gérés par la région. Et moi, en tant qu'élu local, on gère les écoles. Et c'est pas évident, c'est pas évident du tout, parce que quand on se balade dans les écoles, on voit qu'il y a des travaux à faire, qu'il faudrait refaire des peintures, des faux plafonds, des tableaux, on appelle ça des TNI, des tableaux à interface numérique. Donc et les parents sont demandeurs, alors que les villes ont des budgets qui sont limités.
Oui.
Et que aujourd'hui, avant de parler même de l'énergie, on parle de changement de fenêtre, par exemple, quelque chose d'assez basique, et que les villes qui avaient des budgets octroyés par l'État au départ.
Je vois pas le rapport avec les coupures d'électricité.
Non, mais c'est ce que je dis. Ouais. Avant d'arriver même à la coupure d'électricité, il faudrait peut-être penser à l'énergie renouvelable, à changer ce qui se passe dans les écoles avant même d'arriver à cela. Aujourd'hui, les villes sont confrontées à des difficultés d'avoir des budgets. Il y a plus de péréquation de l'État. Il y a plus de.
On est d'accord.
Donc aujourd'hui, pour revenir à ce que tu disais, on est un pays sous-développé. Je pense que il faudrait peut-être remettre la main à la pâte et passer en priorité les.
Ah ben remettre la main à la pâte. Attendez, réflexe-t-il Gary quand même. Parce que les syndicats disent quoi? Ils disent quand même il y a une grosse inquiétude de voir les écoles fermées tout court. Ça leur rappelle un peu ce qui s'est passé durant le Covid. Oui. C'est ça qui se trame. C'est ça qui se disent aussi les syndicats des parents d'élèves.
Tu peux pas faire le parallèle avec.
Ils veulent pas revivre les fermetures des écoles.
Tu peux pas faire le parallèle parce que bon, le Covid, il n'y avait pas le choix. Excuse-moi, c'était un virus. Alors que là, en fin de compte, on aura pu gérer le problème de l'électricité beaucoup plus rapidement, s'y prendre beaucoup plus tôt. Donc, ça n'a rien à voir.
Non, mais le Covid, moi, c'est pas moi qui ai fait le parallèle.
Si, t'as fait le parallèle.
Mais il faut se dire qu'ils n'ont pas bien géré le Covid. Si.
C'était plus difficile à gérer. C'était un virus. Alors que là, en fin de compte, là, c'est...
Non, c'est pas plus facile, c'est pas plus facile à gérer, quoi, parce que quand même, pour rappel, on a dit qu'il fallait porter le masque, après on a dit non, il faut pas le porter.
Ouais, mais là, il y a un vrai casse-tête. Pour le coup, je suis d'accord avec Maître David Levesky, c'est le vrai casse-tête logistique. Qu'est-ce qu'on fait et comment on fait? Ce casse-tête logistique, si on se retrouve face à un cas de figure comme
mais
celui-là.
Oui, parce qu'en fait...
Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce que tu vas faire le matin?
Comment on gère?
T'as des enfants?
Oui, j'ai des enfants, ma femme travaille.
Alors on va prendre ton exemple concret.
Ils sont grands.
On va prendre ton cas. comment vous allez vous organiser, toi et ta compagne?
Je sais que c'est très problématique. C'est très problématique.
Parce que le matin, il faudra bien être présent.
Mais je
si
suis
t'as des
d'accord.
enfants en bas d'âge.
Mais je télétravail. Juste...
Oui.
Oui, télétravail, mais quand c'est possible.
En l'occurrence,
télétravail.
Maintenant, quelqu'un de plus en plus, les entreprises octroient du télétravail à leurs salariés. Donc, c'est ça devient.
Oui, mais il y a des fonctions que tu ne peux pas faire du télétravail.
Ah, je suis bien d'accord.
Les gens
et c'est pour ça qu'ils sont prioritaires.
Celui qui
bah, tiens, je vais solliciter nos auditeurs qui nous écoutent 01 53 48 3000. Tiens, je vais leur demander si demain ça arrive, ce cas de figure justement de coupure d'électricité et qu'on vous dit de garder vos enfants. Est-ce que aujourd'hui vous êtes en mesure évidemment, de vous réorganiser, de pouvoir. Est-ce que vous êtes vraiment en mesure de pouvoir garder vos enfants? Ou est-ce que ça vous, tout au contraire, ça vous handicape? 01 53 48 3000.
Quand il y a des gestions de crise, et on va dire ça va être une vraie crise, ne pas avoir d'école, ce qui se passe, je ne pense pas qu'ils vont couper l'électricité sur l'ensemble des écoles. Ils vont peut-être faire un choix pour prioriser telle école que l'autre. Et là, comme on a trouvé le cas pendant le Covid, la gestion de Covid, où par exemple les enfants, c'était la même chose, hein, plus ou moins, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, on a géré le Covid aussi dans l'urgence. À l'époque, c'était la même chose pour les parents qui travaillaient et qui avaient des métiers importants, je ne sais pas, pompiers, infirmiers, etc. Leurs enfants, les villes n'ont pas ouvert l'ensemble des crèches, mais il y avait une ou deux crèches où on mettait l'ensemble des enfants de ces métiers-là, dont les parents ont des métiers prioritaires, et on les concentrait sur un seul endroit. Et par contre, les autres qui n'avaient pas de métier prioritaire pouvaient garder leurs enfants. Ils avaient l'obligation de garder leurs enfants. Donc je me dis,
En tout cas, il y a un vrai casse-tête qui s'annonce.
Il y a toujours des solutions. On peut toujours trouver des solutions.
Tout le monde, en fait, le télétravail, c'est pas un droit pour les salariés.
Le gouvernement, là, c'est quand même iligne sur iligne de crête, quand même. Maître David Lemesquite, quand même. Non?
Oui, non, mais c'est clair. Mais en plus, c'est plus.
Le ministre de l'Éducation nationale, il n'a pas commis une gaffe sans consulter les syndicats.
Il n'a pas commis une gaffe parce qu'ils veulent préparer l'opinion publique, c'est tout.
C'est tout.
Je veux dire, vaut mieux la préparer maintenant que deux jours avant la coupure d'électricité, quoi.
Moi, je pense que pour l'école, c'est une priorité et l'ensemble des Français, autant. On peut s'abstenir de ne pas avoir une comptine. Nos enfants, ils vont pas à la comptine. On va leur donner un petit casse-croûte ou venir les chercher. Mais autant, l'éducation, c'est très important. Parce que, encore une fois, les parents, et pendant la période du Covid, on l'a bien vu, les parents ne peuvent pas se mettre à la place des instituteurs, n'ont pas cette pédagogie, ne peuvent pas transmettre le savoir comme il le fait un instituteur qui est formé pour cela. Donc, je pense que l'école doit rester une priorité et nous ne pouvons pas avancer sans école.
Messieurs, second sujet, direction les États-Unis. Vous savez, avec justement ce dîner... qui s'est transformé en dîner d'État glamour avec des vedettes, des stars, Joe Biden, mais également aussi Emmanuel Macron. Que peut-on retenir finalement de cette conférence, mais également Emmanuel Macron et Biden, et Joe Biden affichent finalement une entente plutôt cordiale, ces deux chefs d'État, Maître David Lemesquide.
Oui, bon.
Qui avait besoin de qui? L'enjeu était pour la France, pour les États-Unis?
L'enjeu était pour la France, puisque, me semble-t-il, les États-Unis ont pris un acte concernant les véhicules électriques qui prévoit l'octroi de subventions et puis, bon, des ristournes fiscales aux constructeurs, en fait, qui fabriquent ces véhicules électriques aux États-Unis.
Oui.
Donc, à partir de là, Emmanuel Macron a aboyé, mais évidemment, sans réponse possible.
J'aime bien, il a aboyé.
Mais oui, il a aboyé, mais c'est pareil, en fait, c'est la diplomatie, 350 personnes invitées, Jennifer Garnier, Garner. Voilà, avec sa fille, on se fait des bisous.
Il y avait du beau monde, hein.
Mange bien. Oui, mais il y avait du monde, mais concrètement, ça n'a rien donné pour la France. On se demande pourquoi il a fait ce voyage. Ça n'a rien donné.
Mais il a peut-être décroché, tout simplement, le fait de convaincre Joe Biden d'appeler Vladimir Poutine.
Oui, mais attendez. Moi, je suis pour la paix. Je crois que tout le monde est pour la paix, mais dès lors que Vladimir Poutine ne veut pas se retirer de l'Ukraine, je ne vois pas comment on peut négocier quelque chose.
Rafik Tamgari.
Alors, moi, je trouve que c'était très glamour et c'était très, très bien. Et que ça fait plaisir d'être invité à ce genre de
cérémonie. Nous, on n'a pas le droit.
Non, bien sûr, on n'a pas le droit.
Il aime bien les paillettes.
On a le droit de porter un papillon, donc je les ai vus en papillon, donc c'est très bien.
Ouais. C'est le dress code.
C'est le dress code, ouais. C'était papillon.
C'est obligé, hein.
Dress code,
c'est obligé.
Pour les femmes, donc c'était très, très bien. Après, sincèrement, moi, je pense qu'il a dit quelque chose qui est assez importante et vrai, c'est que nos deux pays, la France et les États-Unis, ont été construits sur les mêmes valeurs. Donc, en l'occurrence, c'est la démocratie. Et ça, c'est vrai.
Oui, ça, c'est vrai.
Je pense que la diplomatie joue un grand rôle. Et les États-Unis est sur la même longueur d'onde que la France sur la partie de l'Ukraine. Donc là, encore une fois, les États-Unis soutiennent la même vision que la France.
Ils sont tous les deux belligérants.
Oui, mais il faudrait faire en sorte que cette histoire aussi arrive à avoir du soutien, avoir des alliés. Et les États-Unis est un allié de la France.
Ils sont pas des alliés.
Il faudrait faire en sorte qu'on trouve une sortie de secours pour cette guerre de l'Ukraine. Et je pense que l'Europe actuellement n'a pas réussi à trouver une porte de sortie soit avec la guerre, soit avec la négociation, soit avec autre chose. Donc je pense que il est possible que la sortie de cette crise-là viendrait des États-Unis. Les États-Unis a un grand poids mondial. Les États-Unis a de bons rapports, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Russie,
une analyse très 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 optimiste, parce que on sait que les États-Unis sont très mal aimés. Ils sont moins bien aimés que la France, quand il y a un sentiment anti-occidental fait des États-Unis.
Faut pas oublier que les États-Unis restent très longtemps pays numéro un. J'étais à Moscou. Les États-Unis ont la plus grande superficie d'ambassade à Moscou. Mmh. Donc, les États-Unis sont très puissants en termes de d'échanges, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Russie. Ouais. Donc, je pense qu'ils ont encore ce moyen de pouvoir négocier d'égal à égal. Aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron n'a pas cette, je dirais pas prestance, mais ce poids vis-à-vis de Vladimir Poutine. Qui ne veut même pas négocier avec Emmanuel Macron. Le président Biden peut l'avoir.
Non mais le problème c'est que Poutine n'en veut pas. Donc c'est pas Biden qui va trouver une solution. Ça peut être la Turquie, ça peut être la Chine, mais c'est pas du tout Biden. Ouais. Biden, en fait le.
D'ailleurs, il lui a tendu la perche et je crois que Vladimir Poutine n'en veut pas pour le moment.
Mais non, il n'en veut pas en fait.
Il n'en veut pas. Hein.
S'il y a une solution.
C'est chaud quand même, hein, parce que Vladimir Poutine qui refuse le dialogue, justement, proposé par Joe Biden. Bon.
Je pense que c'est aussi une visite symbole, hein, parce que finit par la Louisiane.
Il est venu avec Bernard Arnault.
La Louisiane qui est le dernier État, je veux dire, qui était
État francophone.
Français. Ouais. Qui faisait partie de la France jusqu'à 1803 et qu'elle est devenue américaine par la suite. Et je pense que c'est... il a parlé qu'il allait soulever un fonds pour la francophonie, pour essayer de refaire naître le français là-bas. Donc je me dis, c'est quand même une visite symbole. Il ne faudrait pas voir le verre à moitié vide. Donc non, il faut le voir aussi à moitié
plein. Il y a une guerre, on ne peut pas se contenter de visite symbole. Je suis désolé, quoi. C'est une petite visite qu'il a fait. C'est pas vraiment une visite d'État.
C'est une visite d'État. Il y a eu des discussions sur le climat. Il y a eu des discussions sur la guerre. Donc c'est pas juste.
Oui, mais qu'est-ce qui a avancé sur le climat?
Sur les enjeux aussi.
Je rappelle que les Américains, les Chinois sont les principaux pollueurs.
Alors encore une fois, David, je te le dis.
Tu vois,
quand on fait une visite d'État, c'est pas tout de suite on signe tous les protocoles. Il y a des ministres, il y a des négociations, il y a des échanges, il y a des réunions de travail. C'est pas parce que un président s'est déplacé, visite d'État, qu'on va sortir au bout de deux ou trois jours avec plein de.
Il y a des promesses de contrat.
En l'occurrence, la visite n'est pas terminée pour faire le bilan de cette visite-là.
Moi, je me souviens des chefs d'État français d'ailleurs, qui se déplaçaient à l'étranger et qui revenaient avec des contrats de milliards d'euros. Il y avait des promesses de contrat. Alors que là, à part le bling-bling, on ne voit pas ce qu'Emmanuel Macron a fait aux États-Unis.
Je ne suis pas d'accord parce que le président français, il s'est déjà déplacé en Algérie et que lors de la fin de sa visite, rien n'a été fait. Et quelques jours par la suite, il y a eu des ministres qui se sont déplacés, ils se sont rencontrés et qui ont signé.
La première ministre?
Tout à fait, oui, en l'occurrence.
En délégation, je te rappelle.
Il a fait la même chose quand il est parti au Ouzbékistan.
En Algérie, il y a eu des promesses. Après, les ministres se sont déplacés pour régler.
Vous savez quoi, je vais aller au standard. Je vais écouter nos auditeurs. 0153483000. Je vais accueillir Anis de Montrouge, du 92. Bonsoir, Anis.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Écoutez, moi, je vais être court et concis.
Allez-y.
Je vais être simple. Déjà, je vais parler de deux sujets. Le premier, c'est par rapport à. Aux coupures d'électricité. J'espère qu'il y aura une révolution énergétique et que ça pète. Comme ça, on se retrouvera tous dans le noir et on reviendra à l'ancienne avec les poils à bois et carrières et les chevaux. Je vous jure, c'est vrai. Hein. On fera du sport comme ça. Il y aura plus de problème d'obésité, de quoi que ce soit. Et on reprendra enfin au bout de la vie. Quant à M. Emmanuel Macron qui est parti aux États-Unis pour voir M. Biden, je me pose des questions. Je me dis, l'avion qu'il a pris, le gasoil, le kérosène qui a été fumé dans ce transport, dans ce voyage qu'il a été fait aux États-Unis, c'est les contribuables qui le payent. Pourquoi il n'a pas dit à Biden en premier temps de venir à Paris? Ça aurait été mieux. Ouais. On aurait économisé déjà en carburant. Ouais. En plus de ça, quoi qu'il arrive, la planète est foutue, les, messieurs. Je suis défaitiste, je suis désolé, mais la planète est foutue.
Mais non, il a
la planète est foutue. Les grands patrons de ce monde ont exterminé la planète.
Il y a Maître David Ibeskid qui me dit, il a, que vous avez raison, Maître David Ibeskid, il veut vous parler.
Enfin, t'as raison. Mais on nous parle de pollution, on nous fait des.
Quoi, les Indiens? Ils ne font rien.
Excusez-moi, on nous parle de pollution. On nous donne des règles à respecter comme à l'école. Oui, l'écologie, oui, ceci, oui, vous devez respecter dans le sexe et tout. Je suis désolé. Vous avez exterminé la planète et vous me donnez des cours d'éducation écologique. Pour moi, ça ne marche pas.
Merci Anis de cette intervention, pour cette intervention en direct. Merci Anis.
C'est un plaisir. Bonne journée à tous.
Merci. Vous êtes d'accord, Maître David Levesque, avec Yanis?
Non, mais moi je suis d'accord.
Avec Anis. Pourquoi vous êtes d'accord?
Mais parce que si les Américains ne font rien, si les Chinois ne font rien, si les Indiens ne font rien en matière de transition écologique, ça va continuer. Et je suis désolé. Nous, en fait, en France, ou même en Europe, on a l'impression, en fait, d'être soumis à des règles. Alors, utile, hein, utile pour l'écologie. Mais ni les Américains, il n'y a pas de réciprocité. Ni les Américains, les principaux pollueurs ne font pareil. Donc, on est les dindons de la farce. Moi, je suis désolé. Je crois que tout le monde est pour la transition énergétique, pour un monde meilleur, la transition écologique. Mais en fait, si on ne pointe pas, en fait, les principaux pollueurs, ça ne sert à rien.
Rafik Tamgari?
Alors, encore une fois, je suis pas d'accord avec David pour la simple raison, c'est que je le trouve très défaitiste et très il nous dresse une image réaliste, très très noire, alors que pas du tout, c'est pas le cas. Parce que je tiens à te faire rappeler, mon cher David, que dans les années 40 et 50, quand c'était encore chauffé au comment on appelle ça truc noir là.
Charbon.
Heureusement qu'on a négocié, qu'on a changé, qu'on a évolué, parce que la pollution, elle était beaucoup plus visible. Et j'ai parlé avec pas mal de personnes qui ont vécu cette époque-là, oui, et qui me disaient, en rentrant le soir, leurs vêtements étaient noirs, leur visage était noir, et que heureusement que la pollution est moins visible aujourd'hui, parce que il y a eu des personnes qui ont voulu changer.
Oui.
Aujourd'hui,
je le dis aux Allemands, je le dis aux Chinois, je le dis aux Américains.
Ouais. Aujourd'hui, il faut pas rester dans cette image, ça y est, tout est noir, tout est mauvais. Non, il faut se battre. Il ne vient pas juste avec des théories. Aujourd'hui, encore une fois, il y a, on appelle ça des colloques sur le climat. Il y a eu des personnes qui sont battent.
Mais c'est pas des colloques qui règlent le problème.
Mais qu'ils ont bien signé des contrats.
Les accords de Paris ne sont pas respectés.
Donc. Ils sont pas respectés par tout le monde, mais ils sont respectés par plusieurs pays. Faut aussi, encore une fois, faut pas rester toujours dans cette image négative où on voit toutes les choses qui n'avancent pas.
Je te parle,
le climat
Américains,
fait en sorte que ça avance. Certes, il y a des pays, et je suis premier
urgence,
à le dire, les Chinois ne respectent pas énormément.
Les Américains,
l'Afrique
les Américains
a besoin de se développer et fait en sorte de pouvoir polluer, comme ils disent. Mais il ne faut pas aller dans cette image-là où tout le monde est mauvais, tout le monde est.
Mais c'est la vérité.
Alors pourquoi c'est pas la vérité?
Mais si, c'est la vérité.
Dites-nous pourquoi, dites-nous.
Regarde les chiffres des principaux pollueurs. C'est les Américains, les Chinois, je répète, les Indiens. Et les Américains ne font rien. Alors, à part les voitures électriques. Mais en fin de compte, les Américains commencent à se positionner sur un problème quand il y a de l'argent à faire. Tu vois, la preuve, en fait, ils incitent tous les constructeurs européens à venir s'installer aux États-Unis pour construire des voitures électriques.
Oui.
D'accord. Donc, si tu veux, il y a toujours un intérêt. Dans ce que font les Américains, malheureusement, je ne suis pas anti-américain, je tiens à le préciser, il y a toujours un intérêt financier. Mais dès lors que les Américains ne font rien en matière de transition écologique, dès lors que les Indiens, et ce que je peux comprendre, parce que l'Inde est en plein développement économique, dès lors que l'Inde ne fait rien en matière de transition écologique, et pareil pour la Chine, je ne vois pas en fait comment le problème va avancer. Ce n'est pas la France elle toute seule, ce n'est pas les petits pays en fin de compte qui vont régler ce problème.
C'est pas la France toute seule. Alors, les accords de Paris, les accords à Marrakech, à Sharm el-Sheikh,
il y a des accords mais qui
ne
sont jamais respectés.
Mais c'est un début.
Les accords de Paris, tu l'as dit toi-même, tu l'as reconnu, pas respectés.
Je ne dis pas.
Même la France ne le respecte pas.
Non.
Donc,
non.
C'est quand même incroyable.
On a énormément avancé en termes de climat. Comment elle s'appelle? On a quelques militantes, pour ne pas les citer, les pays scandinaves qui sont vraiment les premiers dans ces œuvres-là.
Les pays scandinaves.
Et je me dis, les pays du Sud finiront par arriver à ce niveau-là. Et pourquoi pas les autres? Donc, on fait en sorte d'éduquer.
Déjà que nous, on n'y arrive pas. Donc.
Sachez que nos enfants ne consomment pas comme nous consommons.
Et c'est débat très intéressant. Non, c'est vrai. Extrêmement intéressant, je le vois aussi, notamment.
pas vous être défaitiste.
Eh ben, on en parlera, vous avez fait référence aussi à la francophonie, à cette transition écologique. Nous parlerons aussi encore, il nous reste des sujets. On parlera d'un autre sujet, vous savez quoi, c'est l'interdiction. Transition écologique, tiens, pour le coup. Et on parle, vous savez quoi, justement, de ces vols intérieurs, les vols courts, ce qu'on appelle, internes, ici même, qui sont évidemment soumis à la Commission européenne. On va en parler. Tout de suite après la pub, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
On parlait des supporters. Exactement.
Les Marocains qui ont envahi tous les Champs-Élysées.
Allez, restons sur les sujets. Interdiction des vols intérieurs court vers un feu vert de la Commission européenne. Justement, on en parle. Vous savez quoi? C'est Bruxelles qui s'apprêterait à valider cette mesure emblématique de la loi sur le climat. Alors, les vols intérieurs, justement, messieurs, parlons-en. La Commission européenne valide la suppression des vols intérieurs court en France. Maître David Libeskind. Alors, ça va susciter encore un débat, tout ça?
Non, mais
c'est trajet de 2h30.
Voilà,
je précise. Voilà. Précise.
Faut bien préciser, voilà. C'est pas tous les vols intérieurs qui vont être supprimés. Dès lors qu'on pourra faire le trajet en train et qu'on mettra moins de 2h30, le vol sera interdit. Mais je trouve que c'est une bonne mesure. Mais après, je m'interroge. En fait, je me questionne en fait sur le contrôle, parce que comment ils vont contrôler en fait ça, c'est là, ça va être compliqué à mettre en œuvre.
Oui.
Donc c'est là où va être la difficulté, quoi, à mon sens. Mais c'est une bonne mesure, je pense.
Rafik Temgari.
Moi aussi, je pense que c'est une très très bonne avancée. C'est une avancée majeure dans la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et que c'est très très bien pour la planète. C'est bien pour et sincèrement, je prends des exemples. Hein. On partait à Agen, on prenait l'avion, un petit coucou. Et quand on voyait le nombre de passagers, c'était pas. Des fois, c'était même pas plein. Donc, je me dis, c'est vraiment une très grande avancée.
C'est vrai.
Encore une fois,
et pour une fois,
c'est
la France. D'accord, camarade.
Surtout que c'est mal vécu là. Pour le coup, c'est mal vécu là.
Bah, c'est
mal
vécu par qui ?
Bah, ceux qui pratiquent l'avion.
Oui, enfin, je pense que
les
hommes
d'affaires.
Quand il y a une alternative, c'est
une minorité de la population française. Hein, je pense qu'ils pratiquent l'avion. C'est les cadres, les cadres supérieurs.
Oui, c'est les cadres supérieurs, les hommes d'affaires.
Oui, tout à fait. Avec les sociétés, etc. Qui
mais parce que c'est un gain de temps. Vous imaginez pas ?
Oui,
c'est énorme.
Mais moi, je fais des. Moi, je suis avocat. Je fais des déplacements en province. Je prends jamais l'avion. Je prends toujours le train.
Toujours.
Donc voilà, toujours.
Mais quand il y a une solution. Mais demain.
Mais vous êtes dans l'urgence, comment vous faites ?
Mais c'est pas que ça.
Vous avez une. Je sais pas moi.
L'urgence, Adil. Excuse-moi, mais moi aussi, je prends l'avion.
Mais il a un dossier à plaider, il a une convocation au tribunal.
Quand, des fois, quand ça nous coûte moins cher de prendre un avion Paris-Bordeaux que de prendre un TGV. Donc là aussi,
Paris-Bordeaux, c'est 3 heures.
Non, mais je dis en prix.
Il dit en moins cher.
Donc moi, je suis en train de société. En tant qu'entreprise, oui, j'ai le choix beaucoup, entre un avion et un TGV. L'entreprise, ses finances. Hein.
Alors, bonne idée ou pas du tout, messieurs.
Je valide.
La question, c'est est-ce que la Commission européenne, est-ce qu'elle a raison, évidemment, de valider cette suppression des vols courts ?
C'est une avancée majeure pour moi. Enfin, bon,
j'irai pas
fier.
C'est une avancée majeure.
Bah, si.
C'est une petite avancée, mais.
Bah, si. Pourquoi je te dis ça ? Parce que tout à l'heure, tu disais que les États-Unis ne suivaient pas, que la Chine ne suit pas. Bah, maintenant, comme je dis, la France commence, les autres suivent. Donc, c'est avec ces petites mesurettes.
La France est la locomotive.
Énormément.
Ça le fait rire. Elle est locomotive de plusieurs choses.
La locomotive. Non, c'est la France elle-même qui se considère comme une locomotive. Mais quand tu regardes concrètement.
La punchline de Maître David Libeskind.
Concrètement,
il mérite une clochette.
T'as l'Allemagne en fait, les centrales à charbon. Donc, quand on me dit que la France est une locomotive, je suis désolé. Il y a quel qui croit à ça ? Je suis désolé.
Arrêtez, Maître David Libeskind.
Moi, je pense que franchement,
on
était très pionniers. La France, elle a fait énormément d'avancées. Il y a de quoi être fier.
Elle montre l'exemple. Elle ouvre la voie, tout simplement.
Aujourd'hui, Bruxelles valide d'ailleurs.
Hein, mais avec la crise entre la Russie et l'Ukraine, elle ouvre la voie de la fermeture de la transition
énergétique. Allez, un sujet, vous savez quoi, qui vous concerne, qui nous concerne tous d'ailleurs. Vous savez quoi? C'est les prix qui montent. Les tickets qui explosent. Les tickets, évidemment, on parlait des tickets.
Le pass Navigo.
Le pass Navigo, tout ça. Ouais. Alors, les prix, est-ce qu'ils vont finir un jour par retrouver un niveau normal? C'est ça qu'on se pose finalement. Et la question elle est dans la tête de beaucoup de gens. Tiens, Rafik Temgari, vous qui connaissez le milieu, vous pratiquez la finance. Franchement, là, c'est le ras-le-bol général quand même, hein, généralisé.
Je confirme parce que là, On a soulevé un petit peu le prix des transports. Tout à l'heure, je lisais un article qu'il y avait des élus de la région qui partaient pour protester contre l'augmentation des prix.
Ah,
donc,
oui.
Je me dis, alors que c'est très souvent les élus eux-mêmes qui votent l'augmentation. Donc c'est là où on sent qu'il y a vraiment un problème.
Il y a beaucoup de comédie.
Il y a des personnes qui le pensent sincèrement et qu'on voit. Quand on est élu, quand on est sur le terrain, on échange énormément avec les administrés et on écoute. Donc il y a des choses où on suit la ligne politique, mais il y a des choses concrètes et logiques. Donc je me dis que je sois de gauche ou je sois de droite, quand je vois que mon épouse qui prend son, ou mes enfants qui prennent leur transport et que j'avais un budget et que
Oui, mais vous répondez pas à ma question. Est-ce que c'est parti pour durer? La question, elle est là.
Oui, sincèrement.
2023, est-ce qu'on va être évidemment.
Les prix de l'énergie a augmenté, les prix des produits frais a augmenté, les produits manufacturés. Il n'y a aucun prix qui est resté stable ou qui a reculé. Donc je me dis que certes, les prix vont commencer à. J'espère. Les statistiques c'est ce que pas disent l'OCDE, que bon, bah oui c'est ce qu'ils disent
ils disent pas normalement ils devraient avoir une alchimie je crois printemps 2023
non ils disent fin 2023
donc
c'est encore loin c'est encore très très loin c'est pour ça que je dis aujourd'hui on va rester dans cette tendance d'augmentation. On perd en pouvoir d'achat, il faut se dire que aujourd'hui l'ensemble des Français perd en pouvoir d'achat.
Mais est-ce que les salaires n'augmentent pas?
Bah oui, les salaires n'augmentent pas et aussi que les prix augmentent. Parce que même si les salaires n'augmentaient pas et si les prix étaient stables, on aurait.
L'inflation augmente.
Il y a une inflation.
Monte.
Tout à fait.
Non, mais parce que les
enfants. Ça s'essouffle ou elle monte?
Non, pour moi, ça monte toujours. Pourquoi?
Ça monte toujours.
Parce que,
oui, ça monte. Pour l'instant.
Un mois,
donc ça s'essouffle pas.
Donc on, non,
sur les
du
produits
tout.
De première nécessité.
Je pose la question.
Alors la différence, c'est que les Français épargnent de plus en plus. Donc grâce au Covid, grâce à ce qu'on avait auparavant, donc il y a quand même l'épargne des Français est assez important. Mais l'inflation, elle est toujours là.
Enfin, ceux qui épargnent, c'est ceux qui.
Maître David, qu'est-ce que vous répondez vous, Maître David?
Effectivement, les prix vont continuer à augmenter, même si d'après l'OCDE au printemps ou fin 2023, on devra avoir une alchimie. Mais moi, je me pose la question pourquoi les prix augmentent? Pourquoi en fait les prix de première nécessité ils augmentent parce
mais
qu'il
tout,
y a
le service, le tabac, l'énergie, les produits frais, l'alimentation,
les matières premières, mais
tout.
Après
tout.
Non mais tout augmente, mais quand je vois que on nous annonce que le pass Navigo va quand même passer à 90 euros à partir du mois de janvier.
C'est à cause de l'énergie.
Avec une augmentation de 15 euros, ce qui est énorme.
Mais c'est à cause de l'énergie.
Voilà, aussi. Après quand tu parles d'épargne, mais en fait ceux qui épargnent, c'est ceux qui ont des bons salaires. Donc la majorité des Français n'épargnent pas, premièrement.
Non,
et deuxièmement, l'inflation augmente, mais les salaires n'augmentent pas. Les entreprises ne veulent pas augmenter leurs salaires.
Actuellement,
elles profitent. Et en fait, il y a des profiteurs en fait des profiteurs de guerre, comme
d'hab sans langue de bois, maître
David. Qu'une commission parlementaire soit créée pour qu'il y ait une vraie enquête en fait sur ces profiteurs de guerre.
Moi, je dirais pas que c'est des profiteurs. Je dirais que
voilà, ils plafonnent. L'État doit plafonner.
Oui. En l'occurrence, oui, c'est vrai. Et je pense que c'est ce qui
sur les prix, il doit intervenir
pour le prix du pain, de la baguette, etc. Même si je salue l'inscription de la baguette au
patrimoine de l'UNESCO.
Donc ça, c'est très bien. Mais encore une fois, pour revenir, je pense que le prix de la baguette, l'État va faire en sorte de le plafonner, sinon ça va être la catastrophe. Mais on est dans un pays libéral, ne pas l'oublier. Rappelle que le fait qu'on soit dans un pays libéral, les chefs d'entreprise ont cette liberté d'augmenter ou pas les salaires.
Ouais.
Donc on a déjà et heureusement d'ailleurs qu'on ait ce libre
non,
choix.
Bah non, malheureusement.
Mais heureusement parce que sinon on aurait tous a été plafonnés et on n'aurait pas eu des personnes qui peuvent voler de avec leurs propres ailes, dans le sens où moi demain je négocie mieux que mon collègue qui fait le même travail. Bah si on n'était pas dans un libre marché,
C'est que les fortunes, les milliardaires ont doublé leur patrimoine.
C'est son domaine, il le sait, non?
Tu vois?
C'est son domaine.
Bah oui, surtout que je les côtoie.
Mais il les côtoie.
Non, mais t'es pas milliardaire, en fait.
Non, mais j'ai dit je côtoie, j'ai pas dit que j'étais milliardaire.
C'est pareil. Mais les milliardaires ont doublé leur patrimoine depuis 2 ans. Et donc, bien sûr, moi je suis pour la libre entreprise, mais il y a des limites. Il y a des limites.
Et c'est là pour
faire de la redistribution. Et malheureusement, les très grandes entreprises, parce que je ne parle pas des PME ou des TPE, ne font pas de redistribution.
Allez, messieurs, merci Rafik Temdari.
Merci à vous.
Élu à Rueil-Ma-Maison. Merci maître David Libeskind.
Merci Adil.
À vendredi prochain.
À vendredi prochain.
Avec plaisir.
Bilal Nedman.
Bonsoir. Bonsoir.
Ouais,
bonsoir.
Salut Bilal.
Comment ça va?
Ça va très très bien.
Time bon. Sport ce soir, c'est qu'est-ce ça. Que vous nous annoncez comme programme? La Coupe du Monde et
on
puis
va parler des nations africaines, Adil. Hein. Les nations africaines
avec Cameroun le Maroc. Ce soir.
Ouais, les Cameroun. Hein.
Ah, ça va être chaud avec le Brésil.
Les Cameroun face au Brésil de Neymar.
Ça serait bien que les Camerounais gagnent quand même pour une fois.
Hein. Ouais, ça serait bien.
Ça serait bien.
Ah ouais, ça serait
bien. C'est pourquoi je dis ça parce que comme
les
ça, on
aura.
Comme ça, c'est pas ça. Comme ça, les équipes africaines.
Mais oui.
Elles donnent une tréha à tout le monde un petit peu.
Les
on aura le Maroc, le Sénégal et le Cameroun. Et allez, on arrache cette victoire.
Le Ghana, il a perdu.
L'Afrique à la Coupe du Monde.
Quand même,
et c'est bien.
Adil, le Ghana a perdu face à l'Uruguay, même à éliminé. Bon, et aussi, on a eu les Coréens. Et la Corée du Sud qui l'a remporté face au Portugal de CR7. Voilà quoi, 2-1. Et on va revenir, c'est promis, sur la France-Pologne de ce dimanche.
Merci Bilal. C'est tout de suite, là, dans une minute à peine.
On arrive là.
Allez, à tout de suite. Moi je vous souhaite un excellent week-end à la réalisation, c'était Anthony. Merci à tous celles et ceux qui nous suivent comme chaque soir de plus en plus nombreux. À lundi, sans faute, vous le savez, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.